Le silence des petits papiers, chapitre 16. Ancien pompier, Amédée gardait le contact avec ses anciens collègues. Il participait aux sorties et banquets organisés par l'amicale. Cette année, un voyage en Corse réunissait l'ensemble des joyeux fêtards pour un week-end mémorable. La compagnie des soldats du feu n'engendrait pas la mélancolie. Pour la plupart, c'était de gais lurons. Cela le peinait de laisser sa ferme durant 4 jours au bon soin d'Arsène, son voisin, et de Tonin, l'ouvrier agricole maintenant à la retraite. C'était la première fois qu'il partait aussi loin, aussi longtemps. Depuis le départ de son épouse, il avait beaucoup changé, ses priorités n'étaient plus les mêmes. Il n'avait pas fallu longtemps à ses anciens collègues pour le convaincre de se joindre à eux. L'été s'était invité. Le soleil radieux donnait au blé une blondeur exceptionnelle. À son retour commencerait la période des moissons. Il pouvait bénéficier d'un peu de calme avant les gros chantiers de juillet et d'août. Il passa ses consignes concernant le bétail et s'en alla le cœur joyeux rejoindre ses copains. Un petit brin d'appréhension le traversa lorsqu'il vit son troupeau au bord de la route. De chaque côté, les vaches s'étaient agglutinées contre les clôtures en fil de fer barbelé. Les bêtes semblaient s'être alignées pour lui faire une haie d'honneur. À la ferme, rien ne se déroula comme d'habitude. Tonin fit le tour des bâtiments avant de se retirer chez lui. À près de 70 ans, il avait gardé ses horaires d'avant, du temps où il se dépensait sans compter au labeur. Sa vie était calquée sur le cycle du soleil. En cette saison, il se levait à 5 heures du matin et se couchait après 21 heures. Il jeta un dernier coup d'œil à la grange qui abritait des veaux élevés en batterie. Ceux-là ne voyaient jamais la lumière du jour, car même pour partir vers leur triste destin, les camions chargeaient les bêtes de nuit. Afin d'améliorer son ordinaire, Amédée avait choisi de prendre en pension ses animaux. Ils arrivaient chez lui âgés d'une semaine et repartait 2 mois plus tard vers l'Italie. Cette activité ne le passionnait guère, mais elle nécessitait peu d'investissement, la nourriture étant fournie par le propriétaire du cheptel. Entre chien et loup, Tonin se retira. Il s'endormit devant le poste de télévision, avec son chat sur les genoux. Une légère brise soufflait en direction du marais. Arsène se dit que la canicule commençait. Il savait interpréter toutes les subtilités de la météo. La moiteur et ce léger souffle dans cette direction ne le rassuraient guère pour les jours à venir. Dans le véhicule qui l'emportait vers la Grande Bleue, Amédée était inquiet. C'était la première fois qu'il quittait son domaine pour une période aussi longue. Ce n'était pas une question de confiance. Loin de ses vaches limousines, ce n'était plus le même homme. Il avait promis de téléphoner tous les jours. Cela ne suffisait pas à apaiser son angoisse. L'été, il convenait de redoubler de prudence. Avec les vacances, les enfants s'amusent parfois dans les parcs en oubliant de refermer soigneusement les clôtures. Il ne faudrait pas qu'un tel incident se produise. Arsène et Tonin éprouveraient les pires difficultés à ramener les bêtes dans les pâturages, surtout si le taureau était aussi de la partie. Jean-Christophe et son épouse n'arrivaient pas à dormir. Leur chambre, située sous les toits, ressemblait à une étuve. Son épouse se leva et sortit fumer une cigarette. Un balai incessant de voitures l'intrigua. Une odeur de grillé lui chatouilla les narines. Elle essaya de localiser l'origine des effluves. Elle opta pour la ferme d'Amédée. Elle monta à l'étage, alerta son mari, puis ils passèrent dans une pièce donnant sur le champ de blé, avec au fond la vue sur la ferme. Le spectacle fut édifiant. Le feu ravageait les bâtiments. Des flammes s'élevaient au-dessus de la grange. Les meuglements se mêlaient au crépitement du foin se consumant. Ils s'habillèrent rapidement et se dirigèrent vers le lieu de l'incendie. Ce n'était pas prudent, car les blés mûrs risquaient eux aussi de s'embraser, mettant en péril plusieurs habitations, dont la leur. Malgré le voyage en Corse, de nombreux pompiers s'affairaient pour dérouler des tuyaux depuis la borne d'incendie jusqu'à la ferme. Ils se plaignaient du manque de pression. Les flammes redoublaient d'ardeur. Des meuglements déchirants provenaient du bâtiment en feu. Les veaux, pris au piège, hurlaient leur détresse. La brise avait pris de la vigueur. Heureusement, le vent descendait vers le marais. Les gendarmes, rapidement sur les lieux, délimitèrent un périmètre de sécurité. Par cette nuit d'été, les badauds affluaient en masse. Il fallait les éloigner, afin de ne pas compliquer la tâche des soldats du feu. Des groupes s'étaient formés, chacun y allant de son hypothèse. Les commérages allaient bon train, certains accusant Amédée d'être l'instigateur de ce drame. D'autres prétendaient qu'il était parti en goguette avec une jeunesse. Toutes les bassesses se donnaient rendez-vous pour dénigrer et dénoncer par le mensonge. Tonin s'agitait en proie à une crise de nerfs. Sa vie partait en fumée. Les meuglements provenant du marais prirent le relais de ceux de la grange. Le bétail remontait du marais et se dirigeait vers les bâtiments sinistrés. Les animaux étaient attirés par les cris de leurs congénères. Il fallut s'employer pour les empêcher de rejoindre le brasier. Grâce à la présence d'esprit d'un voisin, le pire fut évité. Trois hommes, avec des lampes et des bâtons, réussirent à les repousser dans un endroit plus sûr. Les pompiers avaient renoncé à sauver la grange. Ils concentraient leurs efforts sur deux priorités, l'habitation et la cuve de mazout. Les retours de flammes s'approchaient dangereusement de la partie habitable. Ils prirent la décision d'arroser la toiture. D'autres s'activaient à proximité de la citerne à fioul. Ils s'employaient à refroidir le produit soumis à une hausse considérable de température. Le toit et le plancher s'effondrèrent sur les veaux déjà morts. Des flammèches embrasèrent le ciel. Un acre fumé se dégagea. L'incendie était maîtrisé, au prix de prouesses de la part des sauveteurs. Il s'agissait maintenant d'éteindre les braises. Une équipe restera en place toute la nuit, une mauvaise surprise pouvant aggraver les dégâts. Amédée s'apprêtait à embarquer lorsqu'il reçut le pire coup de fil de sa vie. Arsène, déconfit, lui annonça l'incendie de la grange avec l'écroulement qui s'ensuivit. Son sang ne fit qu'un tour. Il s'arrangea pour caser ses collègues dans d'autres véhicules. Il réussit à convaincre le préposé chargé de la prise en charge des voitures sur le ferry. Ce dernier accepta d'ouvrir une barrière afin qu'il fasse demi-tour. Il voyagea toute la nuit. Au petit matin, épuisé, il se gara dans la cour de la ferme. Un spectacle d'apocalypse l'attendait. Il fut frappé par les odeurs. Les 80 veaux prisonniers des décombres dégageaient des émanations nauséabondes. La perte du bétail, alliée à l'effondrement de la grange, lui sapa le moral. Il évoluait sans but précis au milieu de la cour. Des fumerolles s'échappaient des poutres calcinées. Il discuta avec les pompiers volontaires qui surveillaient le sinistre. Chacun lui relata le film des événements. Un soleil triste se leva au-dessus du marais. La brise avait cessé. Amédée absorba un café rapidement. La journée serait bien occupée. Tonin, très perturbé, l'informa que les gendarmes, le maire et les services vétérinaires viendraient dans la matinée. Il se posait toujours l'unique et seule question qui le tarabustait depuis l'horrible coup de fil. Quel était le déclencheur de l'incendie? Il ne se doutait pas des méfaits de la rumeur. Elle irait enflant au fil des jours, colportant les ragots les plus abjects. Dans sa tête, trois hypothèses se disputaient la préférence, mais aucune ne prenait l'avantage sur les deux autres. Ce pouvait être un court-circuit sur une machine alimentant les veaux, ou bien un problème de fermentation du fourrage provoquant sournoisement une montée en température jusqu'à l'embrasement. La dernière supposition le chagrinait plus que les précédentes. Il ne pouvait envisager l'intervention d'une main humaine. Personne à sa connaissance ne lui vouait assez de haine pour provoquer un tel désastre. À 8 heures, le maire se présenta à la ferme. Ils cultivaient leur amitié depuis l'école communale où ils avaient fait les 400 coups. Ensuite, leurs chemins avaient divergé. L'un avait repris l'exploitation familiale, tandis que l'autre se lançait dans des études universitaires. Le maire s'était spécialisé dans la recherche. Il travaillait dans un laboratoire à Grenoble. Il avait essayé de convaincre Amédée de le rejoindre dans l'équipe municipale. Ce dernier avait toujours décliné cet appel du pied. Il disait qu'il n'avait pas les qualités requises. Son ami lui répondait par un sourire. aucun n'était dupe. Les gendarmes et le responsable des services vétérinaires se présentèrent au même moment. Ils firent le tour du bâtiment écroulé. 10 minutes plus tard, sur l'insistance du maire, la décision d'évacuer le bétail mort fut prise. Afin d'éliminer tout risque épidémiologique, une excavation serait creusée sur place afin d'y accueillir les cadavres. La météo annonçait des températures caniculaires, il fallait éviter toute contagion. Chacun opta pour un court-circuit ayant déclenché l'embrasement du fourrage situé au-dessus des animaux. Amédée ne discuta pas, autant valider cette hypothèse et ne pas trop gratter dans cette affaire. L'assureur se présenta peu avant midi. Il ne put que prendre acte des décisions des autorités. L'expert ne pourrait rien expertiser. Il devrait valider la version dictée par le bon sens. C'était bien la première fois qu'il voyait ça dans sa longue carrière. Amédée pouvait remercier le maire et le ciel. Il venait d'échapper à une enquête méticuleuse. Un engin vint creuser la fosse en direction du marais pour enterrer les carcasses calcinées. Un camion, affrété par les services vétérinaires, livra les sacs de chaux vives. Le fermier ne put qu'assister impuissant au déblaiement du charnier et au transport des bêtes vers leur ultime demeure. Voir ses veaux parfois rôtis, parfois intacts, les yeux révulsés, la langue pendante, tout cela le tourneboula. Son moral était dans les chaussettes. Il pleurait intérieurement.